Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». L'émission de « Votre santé, un trésor » aujourd'hui va s'intéresser à l'histoire de la médecine. La restauration récente du film d'Abel Gance, Napoléon, ou Napoléon vu par Abel Gance, film français réalisé par le même Abel Gance, est sorti en 1927. Mais inspiré l'idée de parler de Napoléon, Bonaparte et la médecine. Tout d'abord, je crois qu'il faut bien faire la différence entre l'Empire, l'Empereur et la personne, l'homme Napoléon Bonaparte. L'Empire est une structure politique qui a eu une influence civilisationnelle, qui a créé une ambiance et un mythe sociétal avec sa mode, ses vêtements, son style et son rayonnement. On n'en a pas douté, ce sont des groupes humains qui l'ont construit. Le leader en était l'empereur Napoléon, qui est devenu un mythe. Il y avait aussi la personne, l'homme, Napoléon Bonaparte, avec ses forces, ses faiblesses et ses souffrances, notamment lors de son martyre et de son calvaire sur l'île de Sainte-Hélène, en exil loin des gens qu'il aimait, et notamment de son fils. J'ai invité aujourd'hui le docteur Xavier Riault, directeur de collection aux éditions L'Harmattan, qui supervise la collection qu'il a créée, Médecine à travers les siècles, depuis 2006. Xavier Riault est docteur en chirurgie dentaire, docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, lauréat et membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, membre libre de l'Académie nationale de chirurgie, médaille vermeille du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, chevalier dans l'Ordre national du mérite, chevalier dans l'Ordre des palmes académiques. Il est l'auteur de plus de 600 publications dans 7 langues, en français, en anglais, en allemand, en polonais, en danois, en néerlandais, en espagnol, et de 44 livres, dont 43 en français et 1 en anglais. Sur le plan napoléonien, il a obtenu le prix d'histoire de la médecine aux armées de l'Association des Amis du Musée du Service de Santé des Armées en 2012 pour son livre « Napoléon Ier et ses médecins ». Il est membre d'honneur ambassadeur en France de la Napoleonic Society of Ireland, membre d'honneur de la Napoleonic Society of Georgia et entre autres officier du corps académique de l'Institut Napoléonico Mexico-Francia. À l'époque de Napoléon Ier, un savoir médical unique en Europe se concentre sur le sol français. La santé est réformée en profondeur par des hommes comme Corviard, Chaptal, Berthollet, Fourcroy. Un enseignement hospitalo-universitaire est créé, puis en 1808, l'université. Bonjour à vous, docteur Xavier Riault, et bienvenue avec nous Bonjour. Dans Votre santé, un trésor sur Radio Alliance. Alors, avez-vous quelque chose...
Merci de votre accueil.
Merci d'être présent. Avez-vous quelque chose à rajouter concernant votre CV, déjà très important ?
Non, merci.
C'est on a dit l'essentiel, mais il fallait le dire. Vous présentez quand même la personnalité que vous êtes en tant qu'historien, épistémiologiste et spécialiste de l'Empire Napoléon et surtout de la médecine à cette époque. Hein. Alors, ma première question serait, quelle est la première implication de Bonaparte dans la médecine ?
Sa première implication, elle survient pendant la campagne d'Égypte, puisqu'il part en Égypte avec un corps expéditionnaire complété de nombreux scientifiques, de nombreux chercheurs, de nombreux médecins. Ils arrivent à Alexandrie en 1798, le 2 juillet, et le 22 août de la même année, Bonaparte va officialiser la création de l'Institut d'Égypte. L'objectif premier de l'Institut d'Égypte, c'est de servir les conditions de vie des troupes, des soldats, hein, pour améliorer leurs conditions de vie. Et il va mettre en place 4 sections au sein de cet institut, mathématiques, physique et histoire naturelle, économie politique, littérature et beaux-arts. La particularité, c'est que c'est un institut qui est honorifique et qui comprend 12 membres par section. Le nombre des membres ne va finalement pas dépasser 36 et Bonaparte, qui vice-préside l'Institut, va assister. La particularité, c'est qu'il assiste à toutes les séances de la section physique et histoire naturelle.
D'accord.
Ce qui est primordial, c'est qu'il va s'intéresser à tout, il va participer à tout. Et un garçon comme Dominique Larrey, par exemple, qui est extrêmement célèbre, ne va pas pouvoir intégrer dès l'ouverture de cet institut, l'institut en question, et ne l'intégrera qu'en 1799. Par contre, dès 1798, il va quand même écrire et publier un mémoire dans l'Institut de France et il va l'intégrer véritablement que le 4 juillet 1799, où là, il va s'illustrer avec des mémoires extrêmement devenu célèbre par la suite, comme mémoire sur le tétanos traumatique ou sur l'ophtalmie endémique en Égypte, etc. Au retour d'Égypte, Bonaparte va commander à Chaptal, qui est un ancien médecin. La particularité de Chaptal, c'est que c'est un médecin qui a renoncé aux études médicales parce qu'il se livrait à une autopsie et le corps qui l'autopsiait s'est réveillé soudainement, ce qui l'a beaucoup traumatisé.
Oui.
Et il va se préoccuper d'autres choses, d'autres affaires. Et notamment au retour d'Égypte, Chaptal est déjà ministre de l'Intérieur. Et il va avoir pour mission de collecter tous les mémoires, tous les textes qui ont été publiés par l'Institut du Caire dans un volume qui s'appelle Description de l'Égypte ou Recueil des observations et recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Et pour la seule section physique et sciences naturelles, on aura cinq volumes.
D'accord.
Cinq volumes, voilà.
Donc
Et
le côté.
il aura été présent à toutes les séances et vraiment, il est omniprésent là.
D'accord. Dans cet institut, le côté physique, la médecine est intégrée dans la partie physique, dans la catégorie
Pour être
physique,
comprise
c'est-à-dire.
dedans. Et ce qui est la force première de l'intervention de Napoléon, il sera moins présent par la suite, c'est l'émulation qu'il va susciter, qu'il va mettre en route au sein des praticiens qui vont avoir de cesse tout au long de l'Empire d'innover
Oui.
et de briller par leurs innovations, quoi.
Ouais,
Mais
il va
avec
donner une
une forme
impulsion, quoi.
d'indépendance un peu plus marquée cette fois que l'Institut d'Égypte où vraiment Bonaparte est omniprésent.
D'accord. Alors une question qui me vient à l'esprit, c'est que vous dites qu'il s'est occupé de la médecine militaire, quoi. Hein. Donc avant, bah, il y avait des médecins militaires, mais est-ce que lui réforme vraiment la prise en charge des soldats, des
Alors, c'est le
blessés?
paradoxe. C'est le paradoxe. On sera peut-être amené à en parler plus loin, mais le paradoxe, c'est qu'il va profondément négliger ses blessés tout au long des campagnes qui vont suivre, en ne permettant pas à ses médecins d'avoir des moyens pour pouvoir soigner les blessés, en les laissant éparpillés au sein d'hôpitaux qui mélangent tous les blessés, tous les malades, tous
Oui.
les sans distinction de
Oui,
pathologie,
il n'y avait pas de médecine d'un côté et de chirurgie de
et
l'autre, quoi.
en devant réutiliser des bandages qui ont déjà été utilisés
D'accord.
sur d'autres blessés, il n'y aura pas de moyens alloués. Et les inspecteurs de santé qui seront missionnés pour gérer justement l'économie des médecins de guerre, eh bien, vont fonctionner sur la base de la corruption, de la vente de produits qu'ils vont détourner de leur fonction première, etc. Ce qui fait que les médecins sur le front sont vraiment démunis
Oui.
pour lutter contre les blessures, les gangrènes, etc. Et au final, ça va avoir un impact considérable sur l'armée napoléonienne, puisque les blessés qui vont au front de petites blessures peuvent mourir de gangrène
Bien
et
sûr.
de maladies autres que la blessure véritable.
Oui.
Mais au lieu d'être soignés, d'être envoyés sur le front pour resservir et de faire profiter de leur expérience et de leur capacité à combattre, eh bien, ils ne seront plus en état de combattre. Et donc, on va faire appel à un renouvellement de soldatesque par les corps des nouveaux jeunes qui vont arriver au fur et à mesure, mais qui seront inexpérimentés, qui ne seront pas aptes au combat.
Oui.
Et c'est lors des 100 jours, il va se retrouver avec une armée qui ne sera plus une armée de métier, mais une armée de jeunes conscrits, inexpérimentés, mal formés, pas prêts au combat.
Oui,
Et
d'accord.
les blessés qui auraient pu participer à cette formation, qui auraient pu accompagner ces jeunes conscrits, leur donner une expérience plus vite, ne seront pas à même
Oui,
de
donc
les encadrer.
oui,
Et
on compte.
donc, il a une armée qui est obsolète avant le combat, quoi, en
Oui,
quelque
on
sorte.
comprend cette politique de santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Antoine François de Fourcroy, un véritable réformateur et le créateur de
Fourcroy est
l'enseignement
un homme.
hospitalier universitaire?
Oui, Fourcroy est un homme essentiel de l'administration napoléonienne. C'est un médecin à la base, hein. Il est docteur en médecine en 1780. Il intègre aussi la Société royale de médecine, mais il va davantage se préoccuper de politique. Il va intégrer comment dire, la convention. Rapidement, et en 1793, le 8 août, il va voter la fermeture de toutes les académies et de toutes les sociétés savantes. Autrement dit, il n'y a plus personne pour former les médecins en France. L'Académie des sciences est supprimée et Fourcroy est justement impliqué directement dans la mesure. Mais en 1794, il va intégrer le comité de salut public, où il va siéger jusqu'au 3 juin 1795, et il va faire voter une loi primordiale le 4 décembre 1794, qui va instaurer trois écoles de santé à Paris, Strasbourg et Montpellier notamment. Et la particularité de ces écoles, c'est qu'elles vont être à proximité d'hôpitaux.
Oui.
Et dans la formation que les étudiants vont recevoir, ils auront obligation de passer des cours théoriques aux cours pratiques, à des stages hospitaliers, etc. Il est à la base de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'enseignement hospitalo-universitaire. C'est lui le grand réformateur de
D'accord.
cela.
Oui, il y a le côté.
Il va faire également la même chose pour la pharmacie. Il va mettre en place les premières écoles de pharmacie également, mais un peu plus tard cette fois.
D'accord.
Et surtout, il va être le fondateur de l'université impériale. Napoléon, qui ne l'aime pas du tout, va lui faire réécrire le texte de l'université impériale à 22 reprises, en étant extrêmement tatillon sur un certain nombre de décrets. C'est lui aussi, Fourcroy, qui va mettre en place les palmes académiques, hein, évidemment. Si Napoléon ne l'aime pas, il va quand même emmener deux livres à lui sur l'île d'Elbe, ce qui montre quand même
Oui,
la valeur
l'importance, oui.
de Fourcroy aux yeux de Napoléon, malgré tout, même s'il ne l'aimait pas en tant qu'homme.
D'accord, alors
Mais c'est un
vous avez
homme
parlé de ce.
primordial, Fourcroy, pour la médecine française.
Voilà, il a cette création de
Quand
la
je vous
notion
dis
d'enseignement.
que Napoléon va être moins présent sur le plan médical concernant l'Institut d'Égypte, où il a été omnipotent, où il a
Oui.
vraiment presque gouverné cette médecine à l'Institut d'Égypte, il va être moins présent, mais effectivement, il va déléguer plus et auprès de gens chez qui il va susciter une émulation considérable. Et Fourcroy est un de ces exemples.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu d'autres réformes médicales importantes sous l'Empire? Bon, à part cette grande
Ah
structure de
oui,
l'enseignement
énormément,
hospitalo-universitaire.
énormément. On assiste à une vraie révolution médicale qui aujourd'hui est toujours pérenne. Bon, on a vu Fourcroy, je vais pas revenir sur lui, l'enseignement hospitalo-universitaire qui est considérable et qui va aboutir par exemple à la faculté de médecine sous l'Empire. Sous l'Empire, on a encore cette faculté, elle est toujours en place à Paris, hein, rue de l'ancienne école de médecine. Hein, les locaux sont toujours là, hein, avec l'amphithéâtre de Saint-Côme, qui est juste à côté, rue des Cordeliers. On a aussi donc les pharmacies, je l'ai dit, hein, en 1803, c'est une loi de Fourcroy également, dont il est le père. On a la vaccination antivariolique qui va se
Oui,
mettre en place
qui
avec
sûr.
Guillotin et Parmentier.
On en
On a la
reparlera.
Crime royale de médecine en 1820. On a Marie-François-Xavier Bichat qui va être le grand précurseur des dissections, des autopsies en France. Il faut savoir que jusqu'à la Révolution, pendant très longtemps, c'est considéré comme un péché de
Oui.
disséquer un corps. Et au moment de la Révolution, on va dire que l'Église ne le tolère pas, mais ferme les yeux, quoi, sur la
Oui,
chose.
bien
Et Bichat
obligé.
va être un va révolutionner la dissection et l'autopsie et écrire des livres sur le sujet. Il est considéré aujourd'hui comme le père de l'histologie moderne et le rénovateur de l'anatomie pathologique. On a Corvisart qui est le premier médecin de Napoléon, qui va révolutionner les techniques d'auscultation, qui va avoir un élève fameux, Laennec,
L'aîné,
qui va
oui.
inventer le stéthoscope.
Donc de.
On a Allais, qui est un grand précurseur de l'hygiène médicale et qui est un défenseur de la vaccine, qui va militer pour une médecine préventive. Baudeloc, lui, va mettre en place des instruments obstétriciens qui vont durer, qui vont être utilisés pendant des années, des siècles même par la suite. On a Esquirol et Pinel qui vont révolutionner les asiles psychiatriques et la psychiatrie elle-même.
Donc on voit
On
une
a vraiment
grande
une quantité de choses, mais
qui vont changer. Mais
monumentale, véritablement. Je terminerai juste sur l'arrêt, parce que je l'ai cité tout à l'heure, mais l'arrêt a mis en place pendant les campagnes successives où il a été présent, parce qu'il a été quasiment présent à toutes les campagnes militaires de Napoléon, et il a mis en place une classification des blessés qui arrivaient
au front,
au campement,
oui, comment?
aux hôpitaux militaires. Il a mis en place une classification qui justement protégeait les blessés des pathologies diverses et les classifiait de manière très stricte pour les protéger justement des infections bactériennes et virales. Et il a mis en place une classification qui a été en vigueur pendant les deux guerres mondiales, Première et Deuxième Guerre mondiale en France. Hein, c'est pour dire l'ampleur du
Oui.
personnage et l'ampleur de ce qui a été fait pendant les guerres d'Empire, qui sont pour moi à la base de la médecine contemporaine aujourd'hui à part entière.
D'accord, mais je vous remercie. Alors je vous propose une trêve musicale avec une musique de marche impériale. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Xavier Riault qui nous parle de Napoléon Bonaparte et la médecine. Xavier Riault, pouvez-vous nous parler de l'influence des maladies sur les campagnes militaires comme le scorbut dans la marine ou le typhus dû au pouls en Russie?
Oui, eh bien, ça a une influence considérable. Il est très vite connu tout au long du XVIe, XVIIe siècle que les hommes souffrent d'avitamino C, ou plus communément appelé, par exemple, dans la marine, le scorbut. C'est lié à un défaut de vitamine C, hein,
Voilà
et
les.
ça se traduit par, au niveau bucco-dentaire et plus général, donc par une mobilité des dents, des gencives qui deviennent extrêmement gonflées, spongieuses. Et puis la perte des dents, et ça se traduit par la suite à des hémorragies et également des abcès, des troubles cardiaques et rénaux qui aboutissent à la mort inexorable du malade.
Et alors les.
Et un beau jour, il y a un médecin écossais, James Lind, dans la marine britannique, qui va sur le HMS Salisbury en 1747 tester des marins. Pour, comment dire, tester auprès de 12 marins exactement, 6 échantillons, différents aliments pour voir ce qui pourrait fonctionner pour traiter le scorbut.
Donc il a
Bon, je vous
l'idée de.
épargne les échantillonnages, mais je vais prendre les deux marins qui ont pu être soignés. C'est à base d'agrumes, d'oranges, de citron.
Ouais.
Et il va vite comprendre que c'est le meilleur traitement pour traiter le scorbut. Et les marins vont voir leurs symptômes disparaître les uns après les autres.
Très bien, alors
Et la forme. Oui, allez-y, pardon.
parlez-nous des poux en Russie aussi et du
Je finis
typhus.
juste sur James Lind parce que c'est quand même très important.
Sur le scorbut, oui.
Ces préceptes, il va les publier et ils vont être systématiquement appliqués dans la marine britannique à partir de 1795. Alors qu'en France, ça va être fait de manière très ponctuelle, sans connaissance véritable. Et ça va devenir obligatoire qu'à partir de 1850 dans
Oui.
la marine française.
Française, oui, donc.
Donc on voit qu'on a une marine britannique au sommet de sa forme physique, qui va affronter une marine française extrêmement affaiblie par les maladies, le scorbut notamment, parce que comme c'est accompagné de défauts d'hygiène
Oui,
aussi,
ça dit.
eh bien, il y a une flopée de pathologies associées. Et donc, pour beaucoup de choses, ça explique aussi
La
les
suprématie de la
défaites
marine.
napoléoniennes d'empire
Oui.
de la marine française.
Oui, la
L'état des
suprématie de la
marins
marine
n'était pas en
anglaise.
bon état. Et alors, pour le coup, et pour les maladies pendant, comment dire,
Le typhus et les
la
poids.
campagne de Russie, on sait que, comment dire, eh bien, il y a eu véritablement une présence d'époux omniprésente au niveau de la campagne. La Bérézina, qu'on qualifie souvent de défaite, est une victoire militaire, mais c'est la suite, la débandade qui a suivi, qui est une catastrophe. Et là, les
Oui.
soldats n'avaient plus rien à manger, mais également subissaient les attaques du pou. Le pou est responsable du typhus.
Oui.
Et on estime aujourd'hui que, sur c'est Oleg Sokolov qui l'a estimé, que le désastre militaire est tel que sur 300 000 hommes, il y a un homme sur cinq qui est mort des combats, quatre hommes sur cinq qui sont morts
Sans mort de
strictement
maladie.
de maladie.
Oui, c'est ce qu'on retrouve.
Et donc c'est quand même très problématique. On a, par exemple, dans la ville de Torgau, où c'est une forteresse où il y a un certain nombre de soldats français qui sont dedans, il y a la moitié des soldats qui vont, en 1813, qui vont mourir de maladie sans avoir tiré une seule balle.
Mais qui sont.
Et c'est quand même très primordial. Et aujourd'hui, les analyses médico-légales et les études qui sont faites sur les fosses communes de soldats de l'Empire qui sont retrouvées, eh ben, elles parviennent à déterminer la présence des bactéries du typhus qui sont originaires des poux dans l'ADN dentaire des soldats qu'ils retrouvent.
Oui.
Et ça, c'est une avancée technologique et que quand même. Importante à signaler, c'est qu'il y a plus de 30% des soldats qui étaient porteurs de poux et donc de la maladie du typhus potentiellement. Et donc, il y en a quand même une sacrée partie qui sont morts de maladie sans même tirer une balle au combat.
Alors, parlez-nous
C'est
maintenant
un médicament.
d'Antoine Augustin Parmentier, qui est un médecin de l'époque oubliée.
Oui, un médecin pourtant considérable. Qui a un parcours extraordinaire. Il devient apothicaire à 24 ans. Il fait la guerre de Hanovre au début du comment dire du avant bien avant la Révolution française. Il est capturé à cinq reprises par les Prussiens et il va se nourrir. Il n'a pas d'alimentation. Il va se nourrir des pommes de terre et c'est considéré à l'époque comme une nourriture qui est dégradante. Et Parmentier va en percevoir très vite les vertus nutritives et il va ramener cela en France. Il va rentrer à Paris en 1763 et il va mettre ça en culture avec l'assentiment également de Louis XVI qui va lui donner des arpents de terre pour cultiver, arpents de terre qui seront gardés le jour par les soldats et que Parmentier ouvrira aux indigents la nuit. Il va briller par ses études médicales sur le dans le dans, il va avoir une incidence sur l'économie de l'agriculture considérable puisqu'il va être missionné pour différentes analyses de conservation du pain, de conservation de la farine, de conservation de plein de choses utiles à l'alimentation française. C'est lui qui est, il fait partie des grands réformateurs de l'école de boulangerie française, hein,
Oui.
il va y participer de plein pied et il va être nommé logiquement pharmacien de l'armée française, puis pharmacien de la grande armée napoléonienne. En 1803, Napoléon, enfin, il est Bonaparte à l'époque, il n'est pas encore empereur, il va le missionner pour gérer la première promotion de Légion d'honneur, ce qui va susciter beaucoup d'émoi parce que 10 croix de la Légion d'honneur vont être attribuées. Il ne s'est pas mis dedans, ce que tout le monde va, par humilité, ce que tout le monde va lui reprocher. Il va finalement intégrer cette promotion. Mais alors surtout, la particularité de Parmentier, c'est qu'on va y revenir un peu plus loin en parlant de, je crois, plus tard de Guillotin, c'est qu'associés à Guillotin, ils vont avoir un rôle considérable dans la vaccination variolique.
Voilà.
Et c'est un homme gigantesque, Parmentier, trop souvent oublié, mais
Alors vous,
pour ceux qui se posent la question du hachis Parmentier, ça vient bien de lui, c'est
voilà,
lui le
vous faites
pourvoyeur
appel
quand le
à.
blocus compte. Quand le blocus continental est mis en œuvre par les alliés contre Napoléon, c'est Parmentier qui pourvoit à l'alimentation du peuple français. Donc c'est un homme vraiment essentiel à la vie française de l'époque,
Alors,
hein,
vous faites appel
considérable.
justement à ma question suivante. Il faut réhabiliter un médecin qui était essentiel, qui est l'indemne, vous venez de le dire, et qui a été anéanti par son invention. Il s'agit de Joseph Ignace Guillotin, et notamment pour
Oui.
sa campagne contre la variole.
Tout à fait. Et c'est un homme considérable parce que lui aussi, malheureusement, qui n'aura aucune récompense, ni Légion d'honneur, ni noblesse d'empire. C'est lui qui, malheureusement, son œuvre majeure qui est connue de tous, c'est la guillotine, bien sûr, mais il l'avait conçue dans un but que les condamnés à mort soient exécutés, mais de manière rapide et sans souffrance. Il n'avait pas prévu que cette invention soit détournée à d'autres fins, à des fins plus politiques, et ça a été le grand drame de sa vie. Par contre, Guillotin est à la base, par ses luttes avec Antoine Portal, qui sera le vrai fondateur de l'Académie de médecine, est à la base de la création de l'Académie de médecine royale de médecine, pardon, en 1820 sous Louis XVIII,
Oui.
et surtout, il est très impliqué aussi dans la vaccination antivariolique. Avec Parmentier, que j'ai cité précédemment, il va contribuer à rendre la vaccination antivariolique obligatoire, mais surtout, il va créer des centres de vaccination dans toute la France et les ouvrir. C'est la particularité assez fabuleuse pour l'époque. Et ouvrir ces centres de vaccination antivariolique aux indigents, aux pauvres,
Et à tout le monde.
au peuple
Tout le monde,
et à
ouais.
tout le monde.
Voilà.
Hein, c'est en cela, ils sont aussi précurseurs quelque part de ce qu'on a connu plus récemment, sans faire d'allusion particulière.
Voilà, d'accord.
On a véritablement une ouverture générale et il va contribuer à cela
Allez,
et
une
il va contribuer
vaccination
à
de grande
convaincre
masse,
aussi
quoi.
l'empereur de faire vacciner son fils, le roi de Rome. Donc tout ça, c'est vraiment, il a une œuvre, une incidence considérable lui aussi sur la société française de l'époque.
Très bien. Eh bien, docteur Xavier Riault, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre passion pour la médecine sous Napoléon. Merci infiniment à vous. Alors,
Je vous en prie, avec plaisir.
merci beaucoup. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé. Aujourd'hui, j'ai demandé au docteur Xavier Riault de nous citer un livre sur cette période. Il m'a signalé celui qu'il a écrit, Napoléon Ier et ses médecins chez L'Harmattan, qui a été publié en 2012. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.